Véroa Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du mardi 12 décembre 2023 avec vous Eric Manirakiza. D'abord les titres. La chef de la mission de l'ONU en RDC s'inquiète d'une escalade des tensions entre Kinshasa et Kigali avec un risque accru de confrontation militaire directe. Réaction des citoyens nigériens suite au maintien des sanctions et à l'établissement d'un comité de chefs d'État de la CDAO pour dialoguer avec la junte au pouvoir.
Et je pense que nous ne devons pas nous attendre à quelque chose de bon de la part de cette CDAO, de cette institution.
On était convaincus qu'ils allaient maintenir les sanctions parce qu'il y a des jeux qui sont en train de faire. On sait bien que la CDAO n'a pas été créée hier, elle n'a pas été créée aujourd'hui, mais elle a été créée par nos chefs d'État dont le Niger était partie prenante.
Clôture de la mission de l'ONU au Mali après 10 ans de déploiement, marquant la fin de la MINUSMA dans un contexte de retrait progressif. Le Centre d'action pour le développement alerte sur la détérioration des droits de l'homme au Congo-Brazzaville, mentionne des cas de torture et d'exécution sommaire.
Un pain de glace était déposé sur le dos de l'aîné. Au terme de cette action, il y a eu une ouverture, une tache sanguinolente. C'est juste en constatant qu'il a été ramené à la clinique et la clinique a évacué à Makelekele où le décès a été constaté.
La Cour suprême des États-Unis a accepté de statuer en urgence sur l'immunité de Trump, une demande du procureur spécial Jack Smith. La quête cruciale de Zelensky à Washington pour obtenir une aide financière pour l'Ukraine en péril au Congrès américain. Les États-Unis défendent leur soutien à l'opération militaire israélienne à Gaza tout en soulignant la protection des civils palestiniens. Négociation cruciale à la COP28, le projet d'accord sur les énergies fossiles divise les délégués. Dans 10 minutes, vous suivrez l'économie et les sports. Mais d'abord le journal. La chef de la mission de l'ONU en RDC exprime une vive inquiétude quant à une possible confrontation militaire directe entre la RDC et le Rwanda, accentuant les tensions au Nord Kivu. Bintou Keita souligne cette escalade alors que la RDC demande un retrait accéléré des casquets bleus du pays. Rosine Munezero fait le point.
Ces dernières semaines, malheureusement, la situation s'est encore détériorée dans le Nord Kivu. Les tensions entre la RDC et le Rwanda se sont intensifiées, amplifiant le risque d'une confrontation militaire directe qui pourrait également entraîner le Burundi, a déclaré Bintou Keita au Conseil de sécurité. Nous sommes aujourd'hui à un tournant important des relations entre les Nations Unies et la RDC, mais également à un moment important pour le pays lui-même, a souligné Bintou Keita à quelques jours des élections du 20 décembre. L'exacerbation des tensions et des violences dans l'est de la RDC intervient alors que Kinshasa a réclamé un retrait accéléré des quelques 14 000 casques bleus à partir de la fin de l'année et le retrait de la force est-africaine après le non-renouvellement de sa mission par Kinshasa. Les relations entre Kinshasa et Kigali sont au plus bas depuis 2 ans avec la résurgence de la rébellion du M23 qui s'est emparée de larges pans de la province du Nord Kivu.
La fin de la mission de l'ONU au Mali a été symbolisée par l'abaissement hier du drapeau des Nations Unies à Bamako, mettant fin à une décennie de déploiement. Le retrait de la MINUSMA intervient dans un contexte où les responsables soulignent les défis face à la violence asymétrique et aux pressions des populations. Dilidiko.
La cérémonie, hier, près de l'aéroport de Bamako, marque la fin de la mission onusienne au Mali. Les responsables onusiens ont toujours objecté que la MINUSMA n'avait pas pour mission de combattre les djihadistes. Le Mauritanien El Gassim Wane, chef de la MINUSMA, a invoqué la difficulté de la tâche dans un contexte de violence asymétrique sur un théâtre d'opérations immense et avec des attentes fortes des populations. La présence de la MINUSMA est devenue intenable après la prise du pouvoir par les militaires en 2020. Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a fini par demander en juin le départ sans délai de la MINUSMA devant le Conseil de sécurité qui a mis fin à son mandat le 30 juin et lui a donné jusqu'au 31 décembre pour quitter le pays. À la date de vendredi, plus de 10 500 personnels en uniforme ou civils de la MINUSMA ont quitté le Mali sur un total d'environ 13 800 au début du retrait. Il reste à fermer les sites de Gao et Tombouctou où sera menée après le 1er janvier ce que l'ONU appelle la liquidation de la mission.
En Côte d'Ivoire, les contrôles judiciaires de deux opposants, Maurice Kakou et de Pascal Afinguessan, ont été levés. Ces derniers faisaient l'objet de l'enquête pour complot contre l'autorité de l'État, mouvement insurrectionnel, assassinat et actes de terrorisme lors de la présidentielle de 2020. L'ex-président Sierra Leone Ernest Bai Koroma a été interrogé pour la troisième fois par la police à Freetown sur les événements du 26 novembre, qualifiés de tentative de coup d'État par les autorités, a indiqué son entourage. Jugé devant les assises de Paris, l'ancien médecin rwandais Sosten Munyemana a dû s'expliquer hier lundi sur ses relations embarrassantes avec certains membres du pouvoir ayant orchestré le génocide des Tutsis en 1994. On lui reproche d'avoir signé une motion de soutien au gouvernement intérimaire instituée après l'attentat contre l'avion du président Juvenal Habyarimana qui a déclenché le génocide.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est à Washington pour obtenir un soutien crucial au milieu d'un débat tendu au Congrès sur l'aide à l'Ukraine. Cette journée décisive comprend des rencontres avec les leaders du Congrès et une discussion attendue avec son homologue Joe Biden. Jean-Roger Bion.
Sans aucun doute, ce mardi est la journée cruciale de son déplacement. En début de matinée, Volodymyr Zelensky se rend au Congrès. Il sera reçu par les chefs du Sénat, le démocrate Chuck Schumer et le républicain Mitch McConnell, deux partisans de l'aide à l'Ukraine. Après un discours devant l'ensemble des sénateurs, il va rencontrer Mike Johnson, le président républicain de la Chambre des représentants. Ce dernier se dit ouvert au déblocage de nouveaux fonds pour Kiev, mais doit composer avec la frange la plus conservatrice de son parti. Après ces échanges au Congrès, Volodymyr Zelensky se rend à la Maison-Blanche pour échanger avec son homologue américain. Conscient que le sentiment d'urgence s'est bien émoussé à Washington, le président Biden a demandé au Congrès de coupler sa demande d'aide pour l'Ukraine à une hausse de 14 milliards de dollars pour Israël. Mais la promesse du président Joe Biden de continuer à appuyer financièrement l'Ukraine est sérieusement mise en péril. Le Congrès a échoué la semaine dernière à voter une enveloppe supplémentaire de 61 milliards de dollars pour ce pays en guerre.
À Dubaï, les négociations de la COP28 se sont poursuivies tard la nuit dernière, centrées sur le compromis proposé par le président émirati, largement rejeté par les pays pour son manque d'ambition sur la sortie des énergies fossiles. Claire Morizibourg.
Aux premières heures du dernier jour théorique de la 28e conférence climatique des Nations Unies, les pays occidentaux, des États insulaires ainsi que des pays africains et latino-américains ont réitéré leur opposition au texte lors d'une réunion à huis clos selon des négociateurs. C'est la dernière COP où nous aurons la chance de préserver l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris, soit maintenir le réchauffement à 1,5 degré, a souligné l'émissaire américain John Kerry devant ses pairs. Un nouveau texte issu de ces discussions nocturnes est attendu aujourd'hui mardi, selon des délégués, mais la chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, a déjà déclaré être préparée à prolonger la durée des négociations. Hier soir, le président de la COP28, Sultan Al-Jaber, a présenté un projet d'accord offrant au pays une liberté totale pour décider de la manière de réduire les énergies fossiles. Ce document de 21 pages ne fixe plus aucun objectif commun de cessation de l'utilisation du pétrole, du gaz et du charbon, une mesure pourtant envisagée dans les versions antérieures.
Ici aux États-Unis, le procureur spécial Jack Smith a demandé hier lundi à la Cour suprême américaine de statuer en urgence sur l'immunité invoquée par Donald Trump afin d'empêcher l'ex-président de faire dérailler le calendrier de son procès pour l'élection de 2020. Les avocats du favori des primaires républicaines réclament systématiquement que ces divers procès se tiennent le plus tard possible, et en tout cas après l'élection présidentielle de novembre 2024. La Cour, sans statuer sur la saisine elle-même, a dans la foulée accepté de l'examiner en urgence, donnant à la défense jusqu'au 20 décembre pour répondre. La juge Tania Chuktan, qui présidera les débats au procès fédéral de Donald Trump pour ses tentatives présumées illicites d'inverser le résultat de l'élection de 2020, a rejeté le 1er décembre sa requête en immunité, considérant qu'aucun texte ne protégeait un ex-président contre des poursuites pénales. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, retrouvez Alexandrine Rolognon dans sa Minute Éco.
Le deuxième responsable du Fonds monétaire international a averti que la fragmentation de l'économie mondiale et les changements évidents dans le commerce bilatéral sous-jacent pourraient déclencher une nouvelle guerre froide en raison de la guerre en Ukraine et des tensions entre les États-Unis et la Chine. Jitta Gopinath, premier directeur général adjoint, a déclaré à l'Association économique internationale à Medellin, en Colombie, que les pertes pourraient atteindre 2,5% à 7% du produit intérieur brut mondial si l'économie mondiale se fragmentait en deux blocs. Inauguration d'une usine Fiat en Algérie avec pour objectif de servir de base à une véritable industrie automobile locale, selon les termes du ministre de l'Industrie algérien Ali Aoun. L'usine, qui s'étend sur 40 hectares, assemblera plusieurs modèles de la gamme Fiat, dont la 500 hybride, avec une capacité de 50 000 unités qui sera portée à 90 000 d'ici à 2026 et la création à terme de 1 200 emplois. Après avoir terminé l'année 2023 en beauté, les investisseurs en crypto-monnaie surveilleront les taux d'intérêt des banques centrales et une décision réglementaire américaine sur le nouveau produit Bitcoin pour décider comment placer leur pari l'année prochaine. Le prix du Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie et principal baromètre du marché, a plus que doublé cette année, atteignant en novembre son plus haut niveau depuis 20 mois, soit 42 000 dollars par jeton.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo avec nous. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Le football nigérian mis à l'honneur lors des CAF Awards à Marrakech, au Maroc.
Oui, l'attaquant nigérian Victor Osimhen et sa compatriote Aziza Oshoala ont été élus meilleurs joueurs africains de l'année 2023 chez les hommes et les femmes lors d'une cérémonie organisée par la CAF hier à Marrakech, au Maroc, de Casablanca, le compte-rendu d'Amin Birouk.
Le Nigérian Victor Osimhen est le nouveau ballon d'or africain et succède au Sénégalais Sadio Mané, consacré en 2022. Osimhen a reçu cette récompense à Marrakech, où a eu lieu la cérémonie des CAF Awards. Il doit cette récompense à son excellent parcours avec son club Naples, champion d'Italie 33 ans après. Sa compatriote Aziza Oshoala a également remporté le prix de joueuse de l'année au cours d'une cérémonie haute en couleur. Le Maroc, pays organisateur, quant à lui, a raflé 5 récompenses, à savoir le Gant d'or, consacrant le meilleur gardien de but, remporté par Yassine Bounou, le prix du meilleur coach, attribué au sélectionneur des Lions de l'Atlas, Walid Regragui, le prix de la meilleure sélection masculine, et 2 récompenses dans le football féminin, à savoir de la meilleure jeune joueuse, Nesrine Shed, et de la meilleure joueuse interclub, Fatema Tegnaout. L'Afrique du Sud a également eu sa part du gâteau, avec une mention spéciale pour Percy Tau, MVP dans la catégorie joueur interclub, Mamelodi Sundowns, meilleur club féminin, et Désirée Ellis, meilleur coach féminine. Enfin, au rayon prix honorifique, le président sénégalais Macky Sall et son homologue ivoirien Alassane Ouattara ont vu leurs efforts pour promouvoir le football reconnu par la CAF, qui les a honorés avec le prix de l'excellence. Depuis Casablanca au Maroc, Amin Birouk pour la VO Afrique.
Athlétisme, avant de nous quitter Yacouba, Faith Kipyegon, honoré pour ses performances exceptionnelles cette saison.
La demi-fondeuse kényane Faith Kipyegon et le sprinter américain Noah Lyles figurent parmi les 6 athlètes de l'année récompensés hier à Monaco par la Fédération internationale d'athlétisme, qui a aussi mis à l'honneur les records fous battus sur marathon cette saison, Faith Kipyegon, 29 ans, a été sacré dans la catégorie piste après avoir battu 3 records du monde sur le 1500 mètres, sur 1000 et sur 5000 mètres en 2023. L'Américaine Noah Lyles, l'homme le plus rapide du monde cette année, a lui aussi été distingué dans la catégorie piste après avoir dominé le sprint mondial en remportant le 100 mètres, le 200 mètres et le 4x100 mètres à Budapest.
Page des sports signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakizade retourne avec vous pour les dossiers du jour. Après une décennie de présence au Mali, la mission de l'ONU dans le pays a fermé ses bureaux à Bamako hier, en préparation de son retrait final programmé pour le 31 décembre. Le reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danioko, explore le bilan de cette force internationale et des enjeux à venir suite à son départ.
C'est ce lundi que la MINUSMA a descendu son drapeau à Bamako, synonyme de fermeture de son siège non loin de l'aéroport. Une fermeture qui intervient après 10 ans de présence au Mali. À l'heure du départ, le bilan de la mission onusienne est mitigé, selon Bourema Soulo, journaliste.
Ni la métastase de la sécurité du nord vers le centre et voire le nord, et puis aussi de prévenir le coup d'État qu'on a vu aussi dans les crises politiques qu'on a connues qui ont abouti au coup d'État. Donc sur ce point, la MINUSMA n'a pas rempli son contrat d'installation. Mais néanmoins, elle a joué quand même un rôle d'ordre social en amenant des services sociaux de base qui n'existaient pas dans certaines contrées du pays, en construisant ou en rénovant des centres de santé.
Poussé à la sortie par les autorités de la transition malienne, le départ de cette force qui employait plusieurs centaines de personnes ne sera pas sans conséquence, de l'avis du politologue Baba Alpha Queen.
L'expérience où Barkhane est parti, par exemple à Gao, où en fait il y a eu beaucoup de jeunes qui sont restés désœuvrés et qui d'une manière étaient en train de penser à d'autres choses. Donc il est quand même important aujourd'hui à ce qu'on puisse voir tous ces personnels qui ont été travailler avec la MINUSMA, essayer de voir, de leur donner un peu de l'espoir un peu dans d'autres choses. Peut-être bien en fait en les faisant de reconversion.
Cependant, il reconnaît que ce départ va aussi permettre aux forces armées maliennes de prendre position sur toute l'étendue du territoire pour faire efficacement face à la menace terroriste.
Donc les FAMO aujourd'hui vont d'une manière, sont en train de récupérer les camps laissés par la MINUSMA. Cela permettrait un peu de prendre des positions stratégiques pour défendre les villes et puis les régions qui ont été délaissées par la MINUSMA.
Après rétrocession du dernier camp des casques bleus à Mopti qui a eu lieu le vendredi, le retrait définitif de la mission est prévu pour le 31 décembre. Mohamed Danioko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Après le sommet de la CEDEAO qui a maintenu les sanctions contre le Niger, mais créant également un comité de chefs d'État pour entamer des pourparlers avec la junte au pouvoir, notre correspondant à Niamey a interviewé des citoyens pour recueillir leurs avis sur cette décision. Découvrez leur réaction dans ce reportage de Abdelrazak Idrissa.
C'est sans grande surprise que la plupart des citoyens disent avoir appris les conclusions de ce sommet sur la situation du Niger.
Ça ne m'a pas étonné. La CEDEAO, bon, elle est dans sa logique de destruction du Niger, elle est dans sa logique d'étouffement du Niger, elle est dans sa logique de créer un enfer à ciel ouvert au Niger. Donc ça ne me surprend pas. Et je pense que nous ne devons pas nous attendre à quelque chose de bon de la part de cette CEDEAO, de cette institution.
On était convaincus qu'ils allaient maintenir les sanctions parce qu'il y a des jeux qui sont en train de faire. On sait bien que la CEDEAO n'a pas été créée hier, elle n'a pas été créée aujourd'hui, mais elle a été créée par nos chefs d'État dont le Niger était partie prenante depuis les années 75. Donc moi je trouve que c'est inhumain, c'est inique C'est criminel les sanctions qui ont été imposées au Niger.
Pour Ibrahim Bana, activiste, membre du Front patriotique pour la souveraineté, la CEDEAO a raté l'occasion de regagner la confiance des populations.
Et nous pensions avant le sommet du 10 décembre que la CEDEAO allait se rendre compte de l'injustice et de l'illégalité de sa décision de prendre ses sanctions à l'encontre de notre peuple. Nulle part dans les textes de l'Union, il n'existe ce type de sanctions, ni au niveau de la CEDEAO, ni au niveau de l'UMOA. Donc c'était illégal, nous avions pensé qu'elle allait saisir cette occasion pour revenir à la raison. Et au niveau du Front patriotique pour la souveraineté, nous avons hier demandé à nos autorités de d'enclencher le processus de retrait de notre pays de ces deux organisations. Parce que comme vous le savez, dans les objectifs qui ont présidé à la création de ces deux organisations, c'était de réaliser une CEDEAO et des peuples, une intégration régionale économique. Somme toute, ces objectifs sont aux antipodes des sanctions qui nous ont été injustement opposées.
Dans un entretien accordé à la télévision d'État, quelques heures avant la fin de ce sommet, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdrahmane Tchiani, s'est exprimé sur l'issue de ce sommet.
L'embargo soit certes levé. C'est de voir la nouvelle voie que nous nous sommes tracée nous conduise avec ou sans la levée de l'embargo de répondre à l'espoir du peuple nigérien, l'espoir de vivre en paix et dans la prospérité. Et Inch'Allah, debout dans le domaine que nous aurons choisi à travers ce nouveau partenariat que nous voudrons pour le bien de notre pays.
Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
À Brazzaville, le Centre d'action pour le développement, CAD, a exprimé son inquiétude quant à la détérioration de la situation des droits de l'homme au Congo-Brazzaville, détaillant dans un rapport les préoccupations liées aux violations des droits humains. Parmi les 2098 cas documentés cette année, l'Organisation locale des droits humains a souligné des incidents de torture et d'exécution sommaire d'adolescents perpétrés par des policiers. Le CAD en appelle aux autorités congolaises pour une amélioration immédiate de cette situation. Reportage de notre correspondant Arsène Séverin depuis Brazzaville.
C'est avec la douleur d'avoir perdu un fils mort des suites de la torture au commissariat de police de Makelele que M. Samba tente de reconstituer un souvenir lugubre.
Un pain de glace était déposé sur le dos de l'aîné. Au terme de cette action, il y a eu une ouverture, une tache sanguinolente. C'est juste en constatant qu'il était ramené à la clinique et la clinique a évacué à Makelele où le décès a été constaté. À l'inspection de la police, vraiment, ils étaient même énervés, ils étaient découragés.
Magali, elle, a vu s'arracher à la vie un garçon de 17 ans alors qu'il sortait d'un concert musical avec les amis de quartier.
Mon fils avant m'a torturé.
J'ai vu sur le corps de l'enfant les traces de torture. Avant de le tuer, les policiers l'ont d'abord frappé. Puis ils lui ont tiré 2 balles. Ils disent que mon fils était un colonna, un bandit, ce qui n'est pas vrai. J'ai porté plainte contre l'État congolais. Je veux savoir ce qui s'est passé. Je ne peux pas facilement perdre un garçon de 17 ans.
Et au capas, il y a 9 mois, un jeune garçon de 17 ans, à qui caboué, et bien, ma sauce m'a tangaté. Et il y a une justice, et ça, la maya, on a porté plainte.
Un autre parent, Frédéric, a perdu son enfant de 15 ans, fusillé publiquement de 4 balles par les policiers.
On va exécuter l'enfant par le commissaire et un monsieur qui va quitter Ngangalingo devant vous. Il vient loger 2 balles et le commissaire 2 balles. Ils ne sont jamais inquiétés jusqu'à nos jours. Alors c'est très grave.
Dans le rapport de 134 pages qu'il a publié à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, le Centre d'action pour le développement CAD a documenté tous ces faits et plus de 2000 autres cas de violation des droits de l'homme pour l'année 2023. Trésor Ndila Kende est le directeur exécutif du CAD.
On constate une dégradation de la situation comparativement à 2022 où nous avons documenté 572 violations. Cette année 2023, 11 mois, nous avons documenté 2098 violations. C'est un signal très inquiétant qui montre que les gouvernants ne fournissent pas d'efforts pour améliorer la situation et c'est regrettable. Aujourd'hui, la situation des droits humains est inacceptable.
Le CAD accompagne les victimes ainsi que les parents des victimes pour que le juge dise le droit en leur faveur. Mais les procès ne se tiennent pas. Les magistrats trouvent ces affaires trop sensibles pour les juger, selon Monica Ngalula, responsable du programme assistance légale du CAD.
Les dossiers sont bloqués, les preuves sont là, mais il n'y a aucune condamnation de la justice, rien ne bouge.
De son côté, le gouvernement a organisé hier dimanche une marche sportive pour célébrer la Journée internationale des droits de l'homme au Congo. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Alors que les critiques s'accumulent concernant leur soutien à l'opération militaire israélienne à Gaza, les États-Unis ont défendu leur position dimanche, soulignant simultanément l'importance de protéger les civils palestiniens. Véronica Balderas Iglesias en parle dans ce reportage relaté par Gabi Dorcid.
Avec plus de force et d'intensité, c'est ainsi que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a décrit dimanche les avancées de ses troupes dans la bande de Gaza.
Pour atteindre tous nos objectifs, l'élimination du Hamas, le retour de toutes les personnes enlevées et la promesse que Gaza ne sera plus jamais une menace pour Israël.
Netanyahou a également remercié les États-Unis d'avoir opposé leur veto la semaine dernière à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui aurait appelé à un cessez-le-feu immédiat. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a expliqué cette décision lors d'une interview dimanche dans l'émission This Week de la chaîne ABC.
With Hamas still alive, still intact.
Vu que le Hamas existe encore, est toujours intact avec l'intention déclarée de répéter le 7 octobre, encore et encore et encore, cela ne ferait que perpétuer le problème.
Blinken souligne l'importance de fournir à Israël le soutien et les armes dont il a besoin pour se défendre. Mais, dit-il, des conditions s'imposent.
Ces règles s'appliquent à Israël comme à tout autre pays, y compris la manière dont elles sont utilisées et la nécessité, l'impératif de respecter le droit humanitaire international.
Mais alors que le nombre de morts civiles continue d'augmenter à Gaza, la position des États-Unis a été fortement critiquée au Forum de Doha, qui se tient chaque année pour discuter des défis mondiaux. Écoutons Mohamed Shtayyeh, Premier ministre palestinien.
Ce n'est pas seulement la responsabilité d'Israël, mais aussi de ceux qui ont donné aux Israéliens le feu vert pour continuer à tuer les Palestiniens.
De son côté, Ayman Safadi, ministre jordanien des Affaires étrangères, précise.
Aux États-Unis, nous avons eu une conversation très directe avec le secrétaire d'État Blinken. Nous tous de la délégation arabe et musulmane avons été très clairs. Nos priorités sont fixées, arrêter l'agression, permettre un approvisionnement humanitaire suffisant dans toutes les parties de Gaza, assurer la protection des civils.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, également présent au forum, a déclaré qu'il continuerait à appeler à la déclaration d'un cessez-le-feu humanitaire. Et depuis Genève, le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a mis en garde contre l'impact de la guerre sur l'environnement sanitaire dans la bande de Gaza.
Alors que davantage de personnes se déplacent dans un espace de plus en plus restreint, la surpopulation combinée à un manque de nourriture, d'eau, d'abri et d'assainissement adéquat crée les conditions idéales pour la propagation des maladies.
Il a indiqué que l'OMS avait déployé des équipes pour soutenir les agents de santé sur le terrain. Ils sont maintenant physiquement et mentalement épuisés.
Le Monde aujourd'hui avec Eric Manirakiza, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Lionel Runanilagahima a assuré la réalisation et la mise en onde. Un grand merci à toute l'équipe de rédaction. Rendez-vous sur votre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wenpanga, Wayegouya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.